Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Félix Tréguer qui est avec nous au téléphone. Bonjour Félix.
Bonjour.
Alors il y a pas mal d'actualités autour d'ACTA ces temps-ci. Et notamment, on rappelle l'accord commercial anti-contrefaçon. Les travaux ont connu de grandes avancées ces dernières semaines dans les différentes commissions du Parlement européen chargées de ces travaux. Et on peut dire que si la mobilisation citoyenne porte ses fruits et est entendue par les eurodéputés, les mecs d'en face, les partisans de l'accord ainsi que les lobbies de l'industrie du divertissement redoublent eux aussi d'efforts pour éviter le rejet de l'ACTA. Et de fait, malgré un excellent projet de rapport, la commission industrie pourrait être sur le point de basculer en faveur des pro-ACTA d'ici le vote prévu le 30 mai. Marielle Gallo, de Sinistre Mémoire, souvenez-vous du rapport du même nom, est quant à elle parvenue au sein de la commission affaires juridiques à reporter le vote du rapport dont elle a la charge. Encore une manœuvre, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors il y a pas mal de mouvements effectivement dans le cadre des travaux de commission au Parlement européen. La commission des affaires juridiques, qui attend un rapport de Marielle Gallo, devrait voter d'ici au 30 mai sur son rapport. Mmh. Finalement, donc après un report et une lettre écrite à la commission qui sert absolument à rien, mais voilà, des manœuvres qui visent en fait à retarder le vote final sur ACTA, donc de la plénière du Parlement européen, pour qu'il ait lieu après l'été. Cela dit, ça a l'air de pas fonctionner très bien, et donc a priori le vote final est toujours prévu pour juillet. Cela dit, il y a aussi des avancées positives du côté du point de vue des opposants à ACTA. Il y a eu un avis du contrôleur européen des données, qui est un peu la CNIL européenne, qui a rendu un nouvel avis sur le rapport, sur l'accord. Il en avait fait un déjà en 2010. Et là, il leur met une couche à l'occasion donc de ce deuxième avis, et qui est très sévère vis-à-vis d'ACTA, et notamment toutes les mesures qui concernent le chapitre numérique d'ACTA et qui visent à installer une censure privée du net au nom du copyright. Et donc c'est la commission Liberté publique qui est également en charge d'un rapport pour avis sur ACTA et qui a auditionné le contrôleur européen des données il y a quelques jours. On a pris connaissance aussi ces derniers jours du projet de rapport de cette commission, qui est très bon, qui reconnaît la nécessité de sortir de la logique répressive lorsqu'il s'agit pour le Parlement européen et pour les décideurs publics de manière générale d'aborder le partage de fichiers. Donc ça s'augurait de débats intéressants pour la suite. Mais voilà, donc différentes commissions qui avancent dans leur rapport, qui avancent dans leurs travaux, et donc des votes prévus pour l'essentiel à la fin du mois de mai, donc dans la commission des affaires juridiques avec le projet de rapport de Marielle Gallo, dans la commission industrie dont vous parliez, également des amendements qui sont en passe d'être déposés sur un très bon projet de rapport pour en l'occurrence qui a été fait par Amelia Understöder, qui est une eurodéputée pirate de Suède. Mmh. Qui a fait un très bon rapport, qui avait été reçu de manière assez frileuse par ses collègues. Depuis quelques semaines, en fait, les groupes politiques, notamment le groupe libéral, le groupe centriste du Parlement européen, a pris position contre ACTA. Donc ça commence à renforcer le camp des anti-ACTA, même si rien n'est encore joué. Donc un vote en commission industrie le 30 mai. Les amendements déposés sont pas si mauvais que ça. Donc on s'attend toujours à ce que le rapport de la commission industrie soit assez bon de notre point de vue, et donc très hostile à ACTA. Et donc voilà. La commission saisie au fond, donc qui doit attendre que toutes les commissions saisies pour avis votent leur rapport, c'est la commission au commerce international, qui fera sa recommandation finale à l'ensemble du Parlement européen. Elle, son vote est prévu pour le 20 juin. Donc 20 juin, quelques semaines avant le vote final sur l'ACTA.
Mmh. Alors même s'il est prématuré et dangereux de se réjouir trop tôt, si les députés rejettent l'ACTA, quel va être le processus?
Il est probable. Alors, il y a une chose, c'est que la Commission européenne avait très peur, suite notamment aux manifestations contre ACTA cet hiver, que l'opposition, en fait, grandissante à un régime du droit d'auteur complètement dépassé, compromette ses plans relatifs à la directive IPRED, qui est la directive européenne anti-contrefaçon, qui reprend un peu le même type de mesures qu'il y a dans l'ACTA, mais au niveau européen. et elle était en passe de réviser cette directive. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces derniers temps, la Commission européenne a l'air frileuse. Voilà, vu le contexte politique défavorable à l'accroissement de la répression sur le net au nom du copyright, la Commission a l'air sur le point de mettre au placard ses projets de révision de cette directive. Cela dit, il y a d'autres dossiers, je pense notamment à la responsabilité des intermédiaires techniques, comme les hébergeurs ou les fournisseurs d'accès, qui est organisée par la directive services en ligne ou également appelée e-commerce au niveau européen, qui elle aussi est en cours de révision. Donc il y a d'autres dossiers comme ça qui se profilent, sur lesquels il faudra être extrêmement vigilant. Et en fait, voilà, enfin, il est clair que la mobilisation citoyenne contre ces différents projets joue un rôle crucial dans le contexte politique et donc dans la suite de ces dossiers et dans la manière dont les décideurs publics travaillent dessus. Il y a des manifestations prévues contre ACTA le 9 juin. Ça va être un rendez-vous extrêmement important pour cette mobilisation citoyenne et pour faire montre d'un rapport de force qui nous est favorable et qui augurerait d'un rapport de force favorable de notre point de vue, en tout cas pour ces prochaines échéances relatives à la directive e-Pred ou la directive e-commerce par exemple.
Et puis alors, ces dernières semaines ont également été marquées par la publication d'une étude importante appelant l'Union européenne à réformer sa politique des communications sans fil pour libérer l'accès aux ondes. Là, on parle de Wi-Fi, c'est ça ?
Oui, alors c'est un dossier un peu technique sur effectivement les communications sans fil. Il y a des débats sur est-ce que le contrôle étatique sur les ondes et donc l'émission, les ondes radio et la possibilité de mettre en place des réseaux sans fil ne doit pas être réformé. L'approche actuelle depuis des années, depuis la libéralisation en fait des communications sans fil pour la radio, la télévision et puis les communications électroniques et GSM, etc., se fait sur la base d'octroi de licences à certains opérateurs qui ont une autorisation d'émettre et de construire un réseau sans fil. Il y a quelques exceptions à ça. Les exceptions connues, c'est le Wi-Fi par exemple, où on peut émettre et recevoir des ondes, des communications sans fil, sans demander au préalable l'accord du régulateur. Et donc effectivement, cette étude qui avait été commanditée par la Commission européenne appelle à une réforme des politiques de communication sans fil afin de libérer l'accès aux ondes sur le modèle donc du Wi-Fi. Et c'est une manière, selon cette étude, de à la fois faire face à l'augmentation exponentielle du trafic donné sur les réseaux sans fil et en même temps de laisser place à une grande innovation en matière de réseau. On sait qu'il y a plein d'entreprises qui, en dehors même du secteur des télécoms, qui seraient intéressés pour développer des réseaux sans fil pour lancer de nouveaux services. Il y a aussi tout un tas d'associations et de fournisseurs d'accès associatifs qui mettent en place à l'échelle d'une ville ou d'un village en zone rurale des réseaux sans fil pour connecter certaines parties reculées ou pas forcément très bien desservies par le haut débit, les connecter à l'internet, et tout ce genre de choses, toutes ces initiatives reposent, ou en tout cas pourraient être largement facilitées et favorisées par une politique plus ouverte du spectre qui relâcherait un peu le contrôle étatique sur l'utilisation du spectre. Et donc cette étude, c'est un élément important et structurant dans le débat européen, qui est, on est très en retard en Europe par rapport aux États-Unis sur ces questions. Et donc c'est une manière un peu de faire avancer les choses, de poser le problème et voilà, de mettre un peu la balle dans le camp de la Commission européenne et des régulateurs nationaux comme l'ARCEP pour qu'ils fassent évoluer leur politique en la matière et qu'on arrête de prendre du retard sur ces questions.
Oui, c'est vrai qu'en Europe, la situation est assez disparate entre les États membres. Les réformes que propose cette étude permettraient d'une part, comme tu le disais, d'ouvrir la voie à la création de réseaux super Wi-Fi, mais aussi de protéger la neutralité du net. Alors, est-ce que c'est un side effect ou est-ce que c'est inscrit dans cette étude ?
Alors, c'est un side effect parce que, en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on peut mettre en place des réseaux qui échappent au contrôle des opérateurs, alors on peut s'assurer notamment... si dans le cadre de réseaux mis en place par des fournisseurs d'accès associatifs, comme il en existe déjà, on peut mettre en place des réseaux qui sont contrôlés par les citoyens, par les utilisateurs, et donc on peut s'assurer de cette manière que l'opérateur ou le fournisseur d'accès en question ne porte pas atteinte à la neutralité du net, et ne discrimine pas le trafic Internet, ne ralentit pas ou ne bloque pas telle ou telle application, tel ou tel service. Donc c'est un peu un side effect, mais qui est essentiel. Et c'est une manière, en fait, de reprendre le contrôle de l'infrastructure technique qui est le support d'Internet, qui est aujourd'hui aux mains essentiellement des opérateurs. Et donc effectivement, le débat sur la neutralité du net montre à quel point ça peut être dangereux et néfaste pour l'avenir d'Internet. Donc libéraliser le spectre et laisser la possibilité à quiconque de mettre en place des réseaux sans fil, aussi une manière de contourner le contrôle des opérateurs et donc de garantir un transport des données qui soit neutre et non discriminatoire. Mmh.
Alors, on retrouve toutes ces informations, évidemment, sur laquadrature.net, le site, mais aussi, on peut vous trouver au 19 rue Richard Lenoir, dans le 11e à Paris.
Tout à fait.
Le tout nouveau local de la Quadrature.
Exactement.
Dans lequel...
On organise des quadrateliers où des bénévoles et des participants à la Quadrature viennent et contribuent à des projets comme Mémoire politique ou nous aident à améliorer un peu la visibilité du site ou le Pifone également, qui est un des outils qu'on utilise pour faire campagne au Parlement européen et qui a besoin de designers et de développeurs en tout genre. Donc c'est une manière pour nous de se réunir tous ensemble et d'avancer sur ces projets. Et puis aussi régulièrement on organise des quadrapéros, comme on les appelle, où on se réunit de manière un peu plus conviviale pour discuter des libertés sur Internet et faire connaissance.
Voilà, pour discuter aussi de bouquins, par exemple comme le livre de Philippe Aigrin, cofondateur de la Quadrature, Partager la culture et l'économie à l'âge d'Internet, un livre qui suscite pas mal de débats et de propositions dans divers pays.
Oui, tout à fait. C'est un élément important pour nous de porter des propositions dans le débat public. Et Philippe Aigrin travaille sur ces questions depuis un moment. Il avait sorti déjà Internet et création en 2009 au moment des débats sur la loi d'OPI. Donc il détaille un peu sa proposition de contribution créative et qui est une licence globale revisitée et améliorée. Il explique quelles sont les vertus du partage de la culture sur Internet. Et c'est une manière de présenter ces enjeux aux décideurs publics, aux parlementaires européens ou nationaux et de les faire de les aider à mieux comprendre les enjeux qui se nouent autour de ces débats-là.
Voilà, un bouquin librement téléchargeable sur Internet.
Sur Internet, tout à fait, sharing. Tapez sharing dans votre moteur de recherche favori. Sharing Philippe Aigrin, vous le trouverez. Et il est également en commande en format physique. Et il faut savoir que les exemplaires vendus par ce biais servent à financer en partie la Quadrature du Net.
Voilà, puisque la Quadrature recevra la moitié des recettes au-delà du 400e exemplaire physique vendu. Donc allez-y, achetez-le. Hâtez-vous, il y en aura pour tout le monde. Félix Tréguer, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis, on rappelle, c'est laquadrature.net.
Merci à vous, au revoir.
À très bientôt.
Ciao.
Divergence numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence est tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terror States.